peu près pendant une heure, et après on va louer le Seigneur, on va prier également, et on va adorer le Seigneur ensemble. Alors avant de commencer, avant d'aller plus en détail par rapport aux trois péchés qu'on va regarder ce soir, je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, on veut te remercier Seigneur pour cette soirée, Seigneur, on veut te remercier pour les activités qu'on a eues, Seigneur, les discussions, Seigneur, l'honnêteté qu'on a eue, Seigneur, également ton esprit qui nous a conduits, Seigneur. Et on te demande également encore aujourd'hui, Seigneur, de venir nous visiter, Seigneur, on veut plier le genou devant toi, Seigneur, on veut simplement te demander de venir nous visiter au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être, Seigneur, et permets-nous simplement de nous édifier les uns les autres, de nous encourager à travers les péchés qu'on va avoir, Seigneur, également à travers les partages qu'on va avoir, Seigneur. Permets-nous vraiment d'avoir une honnêteté, Seigneur, et que ta parole vraiment puisse être un miroir pour nos cœurs, Seigneur, un miroir pour nos comportements, nos habitudes, Seigneur, et nos attitudes, et que vraiment tu puisses travailler en nous, Seigneur, faire ce changement en nous, Seigneur. Nous sommes responsables, Seigneur, mais nous sommes dépendants de toi grâce au Saint-Esprit, Seigneur. Je te remets cette soirée entre tes mains, Seigneur. Gloire te soit rendue en toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen. Ok. Alors aujourd'hui, on va attaquer la deuxième session de péché. Comme vous vous rappelez, hein, on aborde les péchés subtils. Bien sûr, il y a des péchés flagrants auxquels on est confronté chaque jour. Je suppose et j'espère que personne n'a jamais tué quelqu'un. Mais dans la parole, il est écrit que si quelqu'un dit à son frère Raka, s'il le traite, et s'il le jure ou s'il le déteste dans tout son cœur, c'est comme s'il avait commis un péché. Ce qu'on avait dit ce matin et ce qu'on avait dit aussi hier, ce qu'on avait rappelé rapidement, je vais vous le dire, les pistes qu'on s'était dites, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Comment lutter contre le péché de manière pratique, comment faire en sorte que toutes ces choses qu'on va voir ce soir, nous avons l'assurance et nous avons la promesse dans la Bible que nous avons la victoire à travers ces choses-là. Et donc je vais vous rappeler ces pistes qu'on vous a données. Premièrement, et la plus importante, considérez le péché à la lumière de l'œuvre de Christ. C'est vraiment très important. Prêchez-vous l'évangile chaque jour. C'est pas parce que je suis converti, c'est parce que je connais Dieu depuis 10 ans, j'ai grandi dans une famille chrétienne, que l'évangile n'est pas pour moi, que l'évangile n'est pas personnel pour ma vie, que je ne suis pas pécheur, que je n'ai pas besoin de me repentir. Prêchez-vous l'évangile continuellement. Deuxième point qu'on a vu, bien entendu, comptez sur la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas seul. On n'est pas seul dans ce combat par rapport à nos iniquités. On n'est pas seul par rapport à notre combat dans le péché. Dieu est là. Dieu nous aide. Dieu nous permet de vivre cette sanctification. Troisième point, prendre conscience de notre responsabilité. Vous vous rappelez l'image du moteur électrique? C'est Dieu qui fait les choses, mais c'est moi qui fais les choses aussi. Je ne vais pas dédonner la responsabilité à Dieu, je vais dire, ok Dieu, fais les choses, transforme-moi, et moi du coup je reste là et je ne vais rien faire. Quatrième point, prendre conscience de nos péchés acceptables. Rendez-vous compte que ces péchés-là, les péchés que vous dites, ah mais c'est pas très grave, ces péchés-là qui sont un peu cachés, enfouis en vous, vous ne voulez pas trop vous en rendre compte, regardez en face, acceptez-les et combattez-les, c'est la première phase, les accepter. Cinquième point, nous attacher à la parole. Et pas seulement nous attacher à la parole, comme je dirais, juste lire la parole et ne rien faire. Nous attacher à la parole et prier que le Saint-Esprit nous révèle la sagesse des paroles, que ces paroles puissent nous pointer des péchés qu'on a tous et qu'on veut combattre. Sixièmement, qu'on persévère dans la prière. Les prières que vous faites, ces actes que vous mettez en action, ces choses que vous voulez dire au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de ces péchés, Seigneur, montre-moi comment je suis pécheur. Ça va préparer, ça va labourer votre cœur et ça va permettre au Saint-Esprit après d'agir et de changer votre comportement. Et septième et dernière chose qu'on a envie de mettre en exergue aujourd'hui et durant tout ce campus, combattez avec les frères et sœurs. Vous avez vu, on a discuté ce matin, ce midi, j'espère que ça s'est bien passé dans vos groupes de discussion et on a vraiment envie que voilà, qu'on puisse tous expérimenter ça, qu'on est tous ensemble, qu'on est tous une famille, qu'on n'est pas tous des pécheurs chacun de notre côté, et du coup je pêche dans mon coin, et je continue à pécher, et j'ai honte parce que Dieu me déteste, et Dieu n'aime pas le péché, et du coup je m'enfouis dans un cercle vicieux, et je rentre sous terre. Non, on est là, frères et sœurs, on n'est pas là pour se juger, on est là pour s'accepter, on est là pour s'encourager, on est là pour prier, on est là pour se rendre compte qu'on traverse les mêmes épreuves, on traverse les mêmes difficultés face au péché. Utilisez la communauté que Dieu vous donne pour pouvoir avancer et combattre ce péché. Donc voilà, les sept points principaux que je voulais vous rappeler rapidement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez du péché qu'on avait vu ce matin? Vous étiez là? L'impiété, ok, l'impiété, ça consiste en quoi? Ouais, ignorer Dieu, faire comme si Dieu n'existait pas. On avait vu trois points principaux par rapport à l'impiété. On avait vu que c'était le fait qu'on vive notre vie sans penser à Dieu, sans avoir notre esprit, sans avoir notre être tourné vers Dieu, premièrement. Deuxièmement, vivre. Et ne pas vivre, ne pas vivre pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire ce que je vais faire, le but de mes actions, c'est pas pour la gloire de Dieu. Troisièmement, dans ce que je vais faire, je ne vais même pas m'appuyer sur Dieu. Je m'appuie sur moi-même. Donc vous voyez, en fait, c'est comme si on réfléchissait, on voit ce qu'on fait chaque jour, nos actions, nos pensées, et je réfléchis comme à un process, enfin, comme à quelque chose, un rectangle où toutes nos actions, toutes nos pensées. En fait, l'impiété, c'est quoi? C'est, on dit, la cause, c'est-à-dire l'origine même de tout ce que je fais, c'est pas Dieu, en fait, c'est moi. Ce que je dis, je dépends pas de Dieu. Donc la cause de toutes ces choses, c'est pas Dieu. Le moyen, donc là, comment je vais réagir des choses, c'est pas Dieu, parce que je ne suis pas dans la présence de Dieu. Je ne suis pas dans la présence de Dieu pour faire les choses, donc c'est pas Dieu non plus qui est le moyen pour faire les choses. Et la finalité des choses, c'est-à-dire pourquoi je fais les choses, c'est pas la gloire de Dieu. Quand je suis impie, c'est moi aussi. Donc vous voyez qu'en fait, quand on est impie, si on reprend même la définition même de l'impiété, on se rend compte que Dieu est inexistant en fait. À chaque moment du process, que ce soit la source des choses, que ce soit le moyen de faire les choses, que ce soit la finalité des choses, Dieu, il n'est jamais là dans les process, dans ce que je fais. Dieu n'est jamais là. Et l'impiété, en fait, va mener très rapidement au péché que je vais vous introduire aujourd'hui. Le premier péché, c'est l'orgueil. Comme je vous ai dit, l'impiété, en fait, c'est Dieu n'existe pas dans tout ce process. Je vais faire des choses, je vais vivre, je me lève. Je vais faire même mon culte au quotidien, je vais prier, je vais lire la Bible. Je vais vivre ma vie. Mais du coup, Dieu n'est pas à la source. Dieu n'est pas avec moi au moment où je fais les choses. Et Dieu n'est pas la chose vers laquelle je regarde quand je lis ma Bible, quand je prie. Dieu est inexistant. Donc si Dieu est inexistant, ça veut dire que c'est moi. C'est simple. Hein. Soit c'est Dieu, soit c'est moi, en fait. Si c'est pas Dieu qui pousse à faire les choses, c'est moi qui vais le faire. Si c'est pas Dieu qui va m'aider à faire les choses, c'est moi qui vais le faire. Si c'est pas pour Dieu que je vais faire une chose, c'est moi qui vais le faire. Donc l'orgueil, en fait, c'est quoi? C'est à partir du moment où je suis impie, à partir du moment où j'ai décidé de ne pas mettre Dieu au centre, au début et à la fin de toute chose, je vais mettre moi en fait. La définition de l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Un sentiment exagéré de sa propre valeur. Une estime excessive de soi-même, ok? Une estime excessive de soi-même qui me porte à me considérer, à me mettre au-dessus des autres. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que l'orgueil, c'est je me vois au-dessus de Dieu, parce que du coup je fais ce que je veux de ma vie. Il n'est pas là avant, il n'est pas là pendant, il n'est pas là pour le but. Et je me vois du coup au-dessus de Dieu et au-dessus des autres. Quand je parle d'orgueil, je pense que ça parle à tout le monde. Vous allez me dire, mais pourquoi Mickaël, tu parles d'orgueil dans des péchés subtils? De toute façon, les orgueilleux, je les vois tout de suite. Les mecs qui se la pètent, les mecs, voilà, je sais pas, dans les télé-réalités, je sais pas, toutes les images que vous avez de l'orgueilleux, c'est bon, on voit c'est quoi, on voit c'est qui, on n'a pas besoin que tu nous dises, tu me parles de l'orgueil.
Celui-là ?
Oui, là ça résonne en fait.
Ah ouais, désolé hein, pour la résonance. Du coup, celui-là, il
Comment le temps ?
1, 2, ok, ça va vraiment, ouais. Ok, donc je reprends, vous dites, ok, Mike, tu me parles d'orgueil, je vois si tu es un orgueilleux, je vois comment c'est un orgueilleux, pourquoi tu me parles de péché subtil? On est en train de parler de péché subtil, on se dit, c'est peut-être des péchés que nous on a, et moi je suis pas orgueilleux, je suis pas un mec qui se la pète, enfin une fille qui se la pète, enfin qui se, enfin voilà, et je suis pas là à dire, ouais, c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, etc. Mais, on va étudier trois points principaux de l'orgueil, qui justement, moi ça m'a parlé, franchement ça m'a parlé, et je me suis pris des grosses claques. Parce que moi je ne me considère pas comme quelqu'un d'orgueilleux, hein. Mais à la lumière de ces choses, je fais, ah ouais d'accord Seigneur, j'avoue que tu m'as pointé des choses dans mon cœur. Voilà, donc l'orgueil, je pense que le premier type d'orgueil qu'on va voir s'appelle l'orgueil de la propre justice. Vous allez dire, ouais, c'est quoi ce terme? Je vais le dire tout de suite, l'orgueil de la propre justice. Pour donner une définition de l'orgueil de la propre justice, je vais donner un exemple tout simplement. On va lire Luc chapitre 18, verset 11. Et je pense que la personne qui symbolise et qui incarne le plus cet orgueil de la propre justice, il s'appelle Monsieur Pharisien. Luc chapitre 18, verset 11, je vous le lis si vous l'avez suivi. Ô Dieu, en fait, le contexte, c'est Jésus-Christ qui donne une parabole, en fait, par rapport au salut par les œuvres, par rapport à la vérité même des actions. Et il donne cette parabole, il dit il y a un homme, un collecteur d'impôts, un pharisien, et un collecteur d'impôts. Donc je ne sais pas si vous voyez un collecteur d'impôts, du temps des Juifs, c'est vraiment le pire. C'est le pire parce qu'il vole l'argent des Juifs déjà. En fait, c'est un Juif qui vole l'argent des Juifs. Déjà, vous voyez le truc, hein, même les Juifs, déjà, enfin, par rapport à l'argent, déjà, c'est chaud. Alors, c'est un Juif qui vole l'argent des Juifs et qui le donne aux Romains, donc aux autorités. Donc, déjà, des collabos, tu collabores avec le parti, enfin, l'occupant, et en plus, tu soutiens de l'argent aux gens pour le donner aux occupants. Donc, c'est le pire, en fait, hein, que tu en as. Luc chapitre 18, verset 11, on s'intéresse à la prière du pharisien qui dit « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou comme ce collecteur d'impôts. » Vous voyez la prière de cet homme ?« Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, comme ce collecteur d'impôts. » Et le collecteur d'impôts, si vous suivez, le collecteur d'impôts dit « Seigneur, je suis tellement pécheur, je paraphrase, mais c'est ça l'idée, je suis tellement pécheur, et j'ai même pas... Je ne mérite même pas d'être dans ta présence, pardonne-moi. » Et Jésus dit, c'est ce collecteur d'impôts-là qui va rentrer dans la présence du Seigneur, c'est ce collecteur d'impôts-là qui fait la prière la plus juste. Du coup, l'orgueil de la propre justice, c'est quoi? C'est nous, en tant que chrétiens, on a un sentiment de supériorité morale. On a un sentiment de supériorité morale, qu'est-ce que ça veut dire? On se dit, je suis régénéré, je crois en Dieu, je me sens supérieur moralement, et ça me permet des fois de dénoncer les péchés, de dire « Ah mais, regarde, lui il a fait un adultère, oh regarde, lui il a menti, regarde lui il a volé, oh, regarde lui c'est pas bien, il a fait ça. » Et je pense que dans notre société c'est tellement simple, comme je vous ai dit le premier soir, les péchés sont tellement flagrants, vous avez dit l'Iden, ou l'adultère en fait, on favorise l'adultère, tout ça. Tous les péchés sont tellement flagrants que nous, en tant que chrétiens, c'est facile en fait de dénoncer, c'est facile de voir les choses et de dire c'est pas bien. Mais le problème dans ça, c'est que il y a une fine différence entre dénoncer le péché et mépriser les gens, se sentir supérieur et du coup commencer à mépriser les gens par rapport à ce qui se passe. En fait, dans Luc chapitre 18, donc quand je reviens là, verset 9, Jésus dit encore cette parabole à l'occasion de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les saints. Vous voyez, en fait, Jésus-Christ donne cette parabole à l'occasion, donc pour certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes mais qui méprisaient les autres. Moi, très sincèrement, je pense que ça m'est très souvent arrivé, en fait, de commencer à condamner le péché. Ça, c'est pas bien. L'homosexualité, c'est pas bien. L'adultère, c'est pas bien. Le mensonge, c'est pas bien. La pornographie, la convoitise, c'est pas bien. Mais quand on voit le péché, on voit aussi le pécheur. Et aussi le pécheur. Et combien de fois, moi, je fais l'amalgame en fait, entre la condamnation du péché et la condamnation du pécheur. Je condamne le péché, bien sûr, mais je condamne en même temps le pécheur. Et du coup, je vois la personne d'une manière différente. Je la considère comme ce péché-là et limite, je la juge, en fait. Vous connaissez tous, je pense, la parabole comment ça s'appelle, mais parabole de la poutre et de la paille. Mais c'est exactement la même chose, en fait. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on commence à dénoncer et encore pire après à juger, c'est comme si, je pense que des fois nous on est très très fort pour juger et dénoncer les gens, mais de ne pas regarder à nous-mêmes. Et limite, c'est presque un malin plaisir qu'on a. On va se focaliser sur l'extérieur pour ne pas regarder vers l'intérieur. Ma sœur Florence, ce midi, m'avait dit, tu sais, c'est quoi le sens du mot divertir? C'est le fait qu'en fait, on regarde vers l'extérieur, c'est ça? Ou qu'on...
La diversion.
C'est la diversion, c'est ça exactement. C'est la divertir, c'est la diversion. En fait, c'est la diversion pour pas se poser des questions existentielles dans le cas de la philosophie. Mais du coup, nous, j'ai l'impression que nous aussi, ça nous, c'est un divertissement. En fait, on va regarder à l'extérieur, ah rien, ça c'est pas bien. Du coup, ça va monter mon ego et je vais pas regarder en fait à moi. Je vais pas regarder à mes propres péchés. Je vais même pas m'examiner moi-même en tant que pécheur et je vais même pas examiner le péché que je suis en train de faire en fait en jugeant les autres. Très important, on condamne le pécheur et le péché en même temps, au lieu de condamner le péché et pas le pécheur. Et on va voir, chaque chapitre 4, verset 6, 1 Pierre 5:5 nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux ». Une paraphrase dans le texte, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est là qu'on va arriver à la solution. Quelle est cette solution-là? Parce que des fois, on ne s'en rend même pas compte de ces choses qui sont si subtiles entre mon jugement mon jugement du pécheur. Je pense que la première chose à faire, c'est l'humilité. En tant que chrétien, toujours être humble. Comme j'ai dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, c'est clair et net, mais il fait grâce aux humbles. Pourquoi? Si on réfléchit concrètement et de manière mécanique et méthodique, j'utilise une moralité pour dénoncer quelque chose. D'accord, je vois par exemple le péché et j'utilise une moralité qui est celle de Dieu pour dire que c'est pas bien. Mais réfléchis un petit peu à cette moralité que tu as. Qui te l'a donnée? Comment est-ce que tu l'as obtenue? C'est ce que tu utilises pour juger les gens. Qui est-ce qui te l'a donnée? Est-ce que tu l'as eu tout seul? Est-ce que tu l'as eu? De quel droit en fait tu peux l'utiliser pour juger d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance, cette grâce que tu as eue? Donc ce que je suis en train de dire, c'est que l'humilité de reconnaître que Dieu dans sa grâce et Dieu dans son amour m'a pris dans ma condition. Et il m'a donné également cette moralité, il m'a donné cette occasion de pouvoir discerner le bien du mal, et il m'a donné cette possibilité d'avoir cette relation avec lui, c'est ça le plus important. Donc premièrement, humilité basée sur le fait que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Deuxièmement, soyons honnêtes avec nous-mêmes, même en tant que chrétiens, nous sommes pécheurs. Psaume 51, verset 7, oui, depuis ma naissance, c'est David qui dit, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà dans le péché. Et ce péché-là, comme on l'a vu avec cette double tension, il est toujours là. Bien sûr, je suis déclaré saint, mais Dieu m'appelle à être saint. Et parce qu'il m'appelle à être saint, il y a quand même ce travail que je dois faire où je continue à pécher. Troisièmement, quand on condamne le péché et quand on condamne le pécheur, en même temps, réfléchissons à quelle est la conséquence de condamner un pécheur. À quoi est-ce que ça va lui servir? J'ai un frère, par exemple, que j'ai envie de que j'aime, mais il est toujours dans la médisance. Il est toujours là en train de dire des choses mauvaises aux gens. Qu'est-ce que ça va lui apporter que j'utilise l'orgueil de ma propre justice, où je me dis je me sens supérieur et je commence à le dénoncer, le juger? Ça va. En aucun cas ça va solutionner le problème. En aucun cas je vais aider ce frère à se rendre compte de son péché. En aucun cas je vais l'aider à retourner vers cette humilité envers Dieu. Si j'utilise ma moralité, entre guillemets, pour le juger, pour le détruire, entre guillemets, ça ne va surtout pas l'aider à se rendre compte de son péché, mais ça va plutôt l'enfoncer et le détourner de moi. Et je pense que la vraie solution, le vrai remède, ce n'est pas tant d'utiliser cette moralité pour condamner le pécheur, mais d'utiliser cette moralité pour le ramener à Dieu. Et pour le faire revenir à Dieu, et pour l'amour en fait qui va découler de nous, notre jugement, qui ne sera pas condamné le péché, non, qui ne sera pas condamné le pécheur, mais le péché, va lui permettre de se rendre compte que nous sommes là pour lui et nous ne voulons pas juger sa personne, mais juste son péché. Autre piste aussi, s'identifier à la société pécheresse. Qu'est-ce que j'entends par là? Je prends un exemple dans Esdras chapitre 7, verset 10, où Esdras était revenu de la captivité à Babylone avec certaines personnes qui étaient revenues dans le royaume de Juda, et il voulait rétablir un royaume, une société qui allait louer Dieu, qui allait suivre les ordonnances de Dieu. Il est dit de Esdras qu'il avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner les prescriptions et les règles en Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint, ont atteint jusqu'aux cieux. » Il est là, en fait, lui, c'était un homme droit, c'était un homme de droiture, il avait enseigné les choses droitement. Mais le peuple israélite avait péché, le peuple israélite s'était rebellé. Et du coup, il s'inclut dans le péché. Il est là, il n'est pas là pour juger, il est là pour prier pour eux. Il est là pour dire, Seigneur, on a péché. Il n'a pas dit, eux, ils ont péché, il dit, on a péché. Et Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, je t'en prie, je t'implore, j'implore ton pardon. Donc, pour leur lieu de la propre justice, vraiment, se revenir aux bases même de notre relation avec Dieu, s'humilier totalement et se rendre compte que cet orgueil-là et cette justice-là que nous avons vient de Dieu, vient de la moralité de Dieu, que nous n'avons rien fait pour l'avoir, que nous étions pécheurs aussi. Et plutôt que de continuer à, entre guillemets, enfoncer nos frères et nos sœurs, si nous voyons des péchés ou même d'autres personnes, allons les voir, ayons cet amour, prions pour eux et aidons-les à voir le péché tel qu'il est et condamnons le péché mais pas le pécheur et aidons le pécheur, prions pour lui tel Esdras, comme Esdras l'a fait. Donc ça c'était le premier point, l'orgueil dit de la propre justice. Ensuite, deuxième point, rapidement, l'orgueil théologique. L'orgueil théologique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les termes théologiques, mais si je vous dis que moi je suis calviniste et qu'il y en a qui est arminien, si je vous dis que moi je crois dans la théologie de l'Alliance et qu'il y en a un qui est dispensationaliste, enfin bref, voilà, c'est des termes que j'ai pas envie d'expliquer, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vérités en théologie qui sont centrales. Je ne vais pas vous prêcher le salut par les œuvres. Je ne vais pas vous prêcher qu'il y a plusieurs dieux. Je ne vais pas vous prêcher que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Je ne vais pas vous prêcher qu'il a été substitué par un humain au moment de sa crucifixion. Vous voyez, il y a des choses qui sont claires et nettes et qui font partie du cœur même de la doctrine chrétienne pour le salut, pour notre sanctification, pour notre édification. Et tout le reste, toutes ces doctrines secondaires, bien sûr, il y en a qui sont vraiment... des érudits qui passent tout leur temps et c'est des théologiens, ils font des doctorats sur des précisions de la loi qui nous paraissent folles. Mais il ne faut surtout pas que à cause de cette érudition, à cause de ces connaissances, encore une fois nous ayons l'orgueil, c'est-à-dire quoi? Que je me donne une valeur au-dessus des autres. Regarde, j'ai compris comment ça fonctionne, l'herméneutique et l'exégèse sur un passage des psaumes. Alors je vais t'expliquer, et que je le veuille ou non, eh ben, je vais te dire comment c'est, je vais te dire exactement comment il faut faire. Comment il faut faire pour comprendre. Et ça c'est très très dangereux, parce que des fois même sous couvert de vouloir expliquer aux gens, il y a cet orgueil qui est là en nous, dit t'inquiète, moi j'ai compris, I'm in charge, je vais te montrer ce qu'il faut faire, écoute-moi, écoute pas Dieu, écoute-moi. Et ça c'est très dangereux ça, c'est très très dangereux parce que à ce moment-là, c'est plus Dieu qui mène, c'est plus Dieu qui parle, c'est plus Dieu qui nous mène à l'érudition, qui nous mène à la connaissance, mais c'est nous-mêmes. Et on prend crédit de ce que Dieu se révèle à nous. Je pense qu'en plus, pour tous les fans de théologie, Dieu nous demandera des comptes, on devra rendre des comptes de tout ce que Dieu nous a permis de comprendre et de tout ce que Dieu s'est révélé à nous. Moi, j'ai toujours peur, hein, le plus que j'apprends de Dieu, en théologie ou en méditation personnelle, dans mon culte personnel, le plus que j'apprends de Dieu, le plus que je découvre la perfection, le plus que je découvre la sainteté, le plan parfait de Dieu, et je me dis, waouh, mais du coup, il faut que j'agisse en conséquence. Je ne peux pas juste comprendre à quel point Dieu est parfait, à quel point Dieu est merveilleux, à quel point son plan est millimétré dans ma vie et dans les Écritures, et ne pas agir en conséquence. Et donc, plus on connaît de choses, plus on approfondit la théologie, et plus on a ce devoir et cette mission d'agir entre, encore une fois, l'orthodoxie et l'orthopraxie. 1 Corinthiens 8.1, un passage qui met les idées en place, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'était le débat entre est-ce qu'il faut manger des viandes.
Tu parles d'orthodoxie et orthopraxie, parce qu'il y en a qui...
Oui, ouais, ok. Donc orthodoxie, l'orthodoxie c'est... Ortho, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est droit. Orthogonal, les droites orthogonales, etc. Copère orthonormé. Hein. Vous vous rappelez, là, la terminale, c'est ça. C'est ça, ortho, hein, ce qui qui est le droit des guerres. Doxy, c'est ce qu'on croit. Doxy-dogme, croyance. Donc ce qu'on croit, le bien, le fondement même de nos croyances, et orthopraxie, donc voilà, l'équerre, ce qui est droit, praxie, c'est la pratique. Qu'est-ce que je fais? Donc, pour résumer en français, orthodoxie, ce que je sais, orthopraxie, ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais? J'en reviens à mon verset 1 Corinthiens 8:1. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de chercher la connaissance, mais pourquoi vous la cherchez? Enfin, pourquoi est-ce que vous cherchez cette connaissance? Est-ce que c'est pour pouvoir répondre à des gens? Est-ce que c'est pour pouvoir vous dire « Attends, c'est bon ?» Ou est-ce que justement, il y a de l'amour qui va découler? Est-ce que vous allez utiliser cette connaissance pour transmettre l'amour, pour transmettre le message de Dieu? Troisième point, rapidement, l'orgueil lié au succès et aux choses accomplies. Je pense que c'est assez explicite. Orgueil lié au succès et aux choses accomplies. C'est ce qu'on a, c'est ce sentiment qu'on a. Ah, je fais quelque chose. Ah, j'ai réalisé quelque chose. Ah, je peux tirer crédit en fait de choses. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir du succès. Je dis pas que c'est mauvais de réussir des choses. La Bible même nous dit qu'il y a un lien étroit entre le travail assidu, donc qu'est-ce que je fais, et la réussite. Proverbe 13:4 nous dit: le paresseux a des désirs qui ne le peuvent satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Assez explicite. Même pour le service, donc ça c'est pour la vie en règle générale, le livre des Proverbes. Ensuite, même pour le service au Seigneur, Paul dit à Timothée: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. De Timothée 2:15. Paul, évidemment, dans son ministère, on a fait l'étude des Actes, et on sait à quel point Paul, c'était un surhomme, il a tout donné, il s'est impliqué totalement dans son ministère auprès des non-juifs. C'est bien, Dieu nous appelle à travailler, Dieu nous appelle à nous donner complètement dans tout ce qu'on fait, mais il dit que le succès dans tous nos domaines provient de Dieu. Dieu est souverain. C'est Dieu qui nous permet d'avoir le succès. On travaille, bien sûr, entre guillemets, c'est le moteur qui fait les choses, mais c'est Dieu qui est la source de notre travail, c'est Dieu qui nous donne également le succès par sa souveraineté. 1 Samuel chapitre 2 verset 7, l'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève. L'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, en effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voyez, tout ce qu'on a reçu, pourquoi tu fais le fier? Parce que tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, c'est des choses que tu as reçues de Dieu. D'accord, j'ai travaillé, d'accord, j'ai fait des choses, mais le corps que Dieu t'a donné, l'intelligence que Dieu t'a donné, les circonstances que tu as créées pour que ton travail soit du succès, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les a données, c'est Dieu qui a été souverain. Donc voilà, les trois principaux points de l'orgueil, donc l'orgueil de la propre justice. Je me sens supérieur par rapport à ma moralité, et j'en profite pour dénoncer et pour juger les gens, plus que les gens, plus que le péché. L'orgueil théologique, j'ai tout compris à la Bible, et je vais tout vous expliquer, je caricature, hein, mais je synthétise. Et donc l'orgueil lié au succès et aux choses accomplies, je sais que Dieu me demande de travailler, mais du coup je prends crédit de toutes les choses, je prends crédit de toute la gloire. Et je ne travaille plus pour la gloire de Dieu, mais je travaille pour ma gloire. Ensuite, on a vu l'orgueil, donc je vous l'ai dit, c'est le fait de se sentir supérieur, d'avoir pour nous une haute estime de nous-mêmes et de se voir au-dessus des autres. Donc on reprend le schéma. Impiété, Dieu n'est plus du tout au début du process, pendant le process, à la fin du process. Dieu est totalement exclu. Donc l'impiété implique l'orgueil, parce que c'est Dieu qui n'est plus là, c'est moi qui fais les choses, donc c'est moi qui est au-dessus des choses, c'est moi qui, je pense que je suis la valeur totale. Donc si je crois que je suis le référent absolu, si je crois que je suis la personne qui doit décider, qui est au-dessus des autres, qui est au-dessus de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième péché, c'est l'égoïsme. Donc l'orgueil entraîne automatiquement l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi? C'est une disposition qu'on a à parler trop de soi à rapporter tout à soi et un attachement de toutes les choses à soi. Concrètement, ça veut dire quoi ? Tout ce qui va se passer, toutes les discussions, toutes les choses, tous les événements, je vais rapporter à moi. Parce que je me dis, bah, du coup, je suis impie, je suis orgueilleux, donc c'est moi la référence, donc je vais tout ramener à moi. Et cet égoïsme-là, il est vraiment latent, il est vraiment vicieux, il s'insinue dans tout ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on peut dire, et il peut nous rendre aveugles en fait, par rapport à ce péché, l'égoïsme, cette volonté de tout rapporter à soi, de toujours parler de soi, de toujours tout rapporter à ma propre personne, et du coup à mon propre péché. Philippiens chapitre 2, verset 4, et c'est le verset thème, je pense, de ce péché, Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. L'égoïsme de nous-mêmes, l'égoïsme d'intérêt qui est pareil là, bien sûr, il peut se manifester de différentes manières. Et je pense que moi, l'une des manières les plus subtiles que j'ai décelées, c'était quand on discute. Je discute avec un frère ou une sœur chrétienne, je discute, et il me parle de quelque chose, ou elle me parle de quelque chose. Je dis, ah ouais, d'accord. En fait, dans ma tête, j'ai quelque chose à dire. Et du coup, il a beau me parler, je fais, attends, je vais placer un truc. Par rapport à ce que tu es en train de me dire, je vais te dire un truc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je me dis, ok, tu me dis quelque chose, mais ouais, ok, c'est super, mais moi, je vais te dire un truc, t'inquiète. Ça va être plus puissant. Enfin, vous voyez le truc, c'est. En fait, on parle, mais on ne fait pas attention à la personne. On n'accorde pas d'importance à ce que la personne dit. On a beau me parler, mais en fait, je suis tourné vers moi-même. Je regarde vers moi-même et je me dis, je vais te dire quelque chose qui a beaucoup plus d'importance que toi, ce que tu vas me dire. Je mets de côté ce que tu vas me dire et j'attends. Et du coup, tu sors quelque chose. Mais des fois, ça n'a même pas rapport avec ce qu'elle a dit. Et on n'écoute pas, en fait. On a juste envie de parler. Et il y a, c'est pas biblique, ce que je veux dire. Mais les gens disent que. Quand je dis que c'est pas biblique, mais les têtes se relèvent, c'est marrant. Mais c'est pas biblique ce que je veux dire, mais souvent ils disent que les gens disent que Dieu a bien fait les choses, enfin la nature a bien fait les choses, elle nous a donné deux oreilles et une bouche. Pourquoi? Parce qu'il faut écouter deux fois plus qu'il faut parler. Et ça m'a vraiment inquiété parce que je pense être quelqu'un vraiment d'écoute. Moi je pense que si j'ai une qualité, enfin une petite qualité, ouais, c'est pouvoir écouter les gens. Et cette écoute, en fait, même je me rends compte que même si je me dis ok, j'écoute les gens, mais même des fois, en fait, j'écoute les gens, mais du coup, je tourne les choses et je me dis attends, par rapport à ce que tu as dit, je vais rebondir sur ce que je vais te dire, mais c'est fou, hein. Et je me rends compte, et quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh, mais ça me parle parce que du coup, en fait, je suis égoïste, je suis là, j'écoute la personne, mais du coup, ce que je vais lui dire après, est-ce que c'est pour lui faire du bien ou est-ce que c'est du coup pour moi-même, pour mon propre cœur, pour mon propre égoïsme? Et je me rends compte que. Ouais, mais est-ce que la personne, je l'aime vraiment ou est-ce que j'ai juste envie de lui dire des choses et justement de l'embarquer dans mon domaine, dans mon univers et lui dire des choses? Je pense que le remède vraiment, comme je l'ai dit en Philippiens 2.4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Dieu ne me dit pas, dans sa grande bonté, Dieu ne me dit pas, donne ta vie aux autres. Sois un serviteur et passe ta vie à servir les autres. Il dit bien, regarde aussi à ceux des autres. Il dit de regarder aux nous, mais regardez aussi aux autres de la même manière, de la même intensité. Matthieu 22, verset 37, quand les juifs demandent à Jésus-Christ comment il interprète la loi, Jésus-Christ répond, voici le premier et le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la même manière, comme toi-même, Dieu ne dit pas aime ton prochain plus que toi-même, Dieu ne dit pas aime ton prochain moins, un peu moins que toi-même, il dit comme toi-même. L'importance de se focaliser sur les autres plutôt que sur soi-même pour pouvoir vraiment accomplir l'amour de Dieu sur cette terre. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Il y a aussi un autre égoïsme que je voudrais vous parler, c'est l'égoïsme de notre temps. T-E-M-P-S, temps. Je pense que si on réfléchit bien, Dieu, le temps que Dieu nous donne, c'est une grâce. De la même manière que Dieu m'a donné un corps, de la même manière que Dieu m'a donné de l'argent à gérer, de la même manière que Dieu m'a donné la terre pour laquelle je vais travailler, pour laquelle je vais, entre guillemets, la répandre et la faire fructifier, de la manière que Dieu m'a donné le temps. Dieu est intemporel, Dieu a tout créé. Dieu a créé les dimensions, Dieu a créé la physique, les longueurs, la largeur, mais Dieu a créé le temps aussi. Dieu est infini, et c'est Dieu qui a créé le temps. Et Dieu nous a donné ce cadeau. Ce cadeau, c'est le temps. Et le temps, je vous invite à réfléchir au temps comme une ressource. Vous voyez, pas comme quelque chose de totalement quatrième dimension, longueur, largeur, profondeur, et hop, c'est le temps, mais à une ressource. De la manière que tu as de l'argent, Dieu te donne le temps. On a tous 24 heures dans une journée. On a dans ces 24 heures-là, il y a beaucoup de minutes. On a tous le même nombre de minutes. Ce que je vous invite à faire, peut-être même dans les temps de discussion, c'est réfléchir. Réfléchir comment est-ce que un jour normal se déroule. Ok ? Qu'est-ce que je fais dans cette journée-là ? Où est-ce que j'investis mon temps ? Parce que du coup, réfléchissez au temps comme une ressource et pas comme quelque chose de une donnée physique, mais comme une ressource. Vous voyez, où est-ce que je vais mettre mon temps ? Le matin, où est-ce que je le mets ? Qu'est-ce que je fais ? Etc. Comment est-ce que tu gères ta ressource, temps ? Qu'est-ce que tu en fais ? Prenez un jour normal, faites ça, et mettez-le en regard avec vos priorités. Quel est le sens de votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Quelles sont les directions que vous voulez donner à votre vie ? Vous mettez plusieurs points et vous regardez. Comment je gère mon temps et où sont mes priorités ? Est-ce que ça marche ou pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Attention, je ne dis pas qu'il faut qu'on devienne tous théologiens, qu'on aille tous dans un institut et qu'on fasse tous de la théologie. Mais je dis que même à travers l'expression du temps, à travers l'expression de notre manière de gérer le temps, c'est révélateur. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait un choix. Que ce soit par défaut ou que ce soit de manière consciente, on fait un choix. Soit je fais le choix de ne pas gérer mon temps, et donc du coup de laisser ma nature et ma propre chair gérer ce temps, soit je décide de gérer mon temps à travers mes priorités, à travers le sens que Dieu veut me donner à la vie, et j'organise mon temps de cette même manière-là. Si on réfléchit à Luc chapitre 12, verset 13 à 21, la parabole de l'homme riche, avec ses propriétés, ses terres, il était là, il disait « Ouais, j'ai donné tout mon temps, toute mon énergie et toutes mes forces pour construire des greniers, parce que j'ai des super écoles cette année. Et comme ça, après, quand j'aurai construit plein de choses, et ben, je vais pouvoir me reposer. » Et Dieu lui dit, pauvre fou, ta vie te sera demandée ce soir, tu n'auras même pas le temps de comment dire, de tout ce que tu as fait, tout le temps dans lequel tu auras investi, toutes ces choses-là que tu t'auras donné, tu ne pourras même pas l'utiliser. C'est moi qui ai maître du temps, c'est moi qui ai maître de ta vie, c'est moi qui ai maître de toutes choses. Donc voilà, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et combien de fois des gens nous appellent, combien de fois des frères et sœurs nous disent « J'ai besoin de toi, est-ce que tu peux me rendre un service ? Excuse-moi, je suis dans la galère, est-ce que tu peux m'aider ?» Je dis « Non, franchement, j'ai pas le temps. Ouais, franchement, j'ai autre chose à faire. » Et si on est honnête avec nous-mêmes, des fois, le temps, on peut le trouver, le temps, il y a moyen de le dégager. La question, c'est une question de priorité, en fait. Quelle est notre priorité ? Est-ce que ma priorité, c'est justement de ne pas regarder à mes propres intérêts, mais aussi de regarder à ceux des autres ? Ou est-ce que ma priorité, c'est « Ah, bah du coup, j'ai ma zone de confort, j'ai toutes mes choses qui sont déjà prédéfinies, et je ne peux pas changer. » Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Dernièrement, l'égoïsme de l'argent. Donc, je passe rapidement, parce que ça c'est explicite. Hein. Parce que de la même manière que le temps, mais ça je pense que le temps c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi. Mais là, l'argent, moi, bon, je n'en ai pas trop, donc ça m'en pas trop, mais je vais.
Amen.
Et je vais quand même l'évoquer. Il y avait une étude qui a été faite aux États-Unis qui disait que les Américains sont le pays le plus riche au monde. En termes de PIB, en termes de ressources par habitant, mais ils donnaient que 2% de leur richesse en dons, que ce soit pour des associations caritatives, que ce soit pour les églises ou pour toutes les associations humanitaires. Et je pense que c'est vraiment représentatif de nous, comment on gère nos ressources. Nous, notre être humain, On regarde d'abord notre propre intérêt, alors qu'on peut aider, même je ne vais pas dire aider Ebola ou aider ou des autres choses, mais même peut-être aider un frère ou une sœur. Je ne suis pas là pour vous demander l'argent. Mais véritablement, on sait des fois qu'il y a des frères qui sont dans le besoin, dans notre église, dans notre cercle d'amis, dans notre cercle de famille. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que du coup, mes priorités, je regarde mes propres intérêts, ou est-ce que du coup, j'essaie de regarder à l'autre ? Est-ce qu'il a des besoins ? Est-ce que je peux l'aider d'une quelque manière que ce soit ? Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. 1 Jean 3, 17, si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin, et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Je possède les biens de ce monde, et je vois un frère qui est dans le besoin, et je lui ferme mon cœur. Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en moi ? Comment est-ce que je peux me dire chrétien si je ferme les yeux face à un besoin d'un frère ou d'une sœur ? Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Philippiens 2, 4. Dernier point de l'égoïsme, rapidement, le manque de considération. Donc on a vu le premier point de l'égoïsme et ses intérêts. Tout est poussé centré autour de moi. Je veux parler que de moi et toutes mes activités vont tourner autour de moi. Deuxième point, l'égoïsme du temps. Le temps est une ressource. Comment est-ce que je vais la gérer par rapport à mes priorités, par rapport au sens que je veux donner à ma vie, que Dieu veut me donner. Troisième point, l'égoïsme de l'argent. Quatrième point, le manque de considération. Ça, je pense que c'est super subtil, ça aussi. Le manque de considération, c'est ne pas penser à l'impact que peuvent avoir nos actes sur ceux qui nous entourent. Ne pas penser à l'impact que peuvent avoir nos actes, ça rime, sur ceux qui nous entourent. Concrètement, qu'est-ce que ça, ouais. Par exemple, on se donne rendez-vous, et je pense que ça nous touche tous. Hein. On se donne rendez-vous à une heure précise. Je te donne rendez-vous à midi, ici. On se retrouve, on est plusieurs. Qu'est-ce que je fais ? Je me pointe en retard. Concrètement, il y a plein de raisons. Hein. Peut-être qu'il y a eu un cataclysme. Peut-être qu'il y a eu des trains, il y a eu une grève des RER ou quoi. Ou peut-être que je suis en retard parce que j'ai mal géré mon temps. Peut-être que je suis en retard parce que j'ai mal géré mes priorités. Peut-être que je suis en retard parce que je valorise mon temps plus que ton temps. Tu peux attendre. Moi, j'arrive quand je veux. Toi, tu m'attends. Je suis supérieur à toi. Vous voyez, quand on réfléchit, des fois, c'est même pas conscient. Hein, mais concrètement, si on n'a pas cette rigueur pour se dire déjà, je dis quelque chose, je te promets d'être à l'heure. Déjà, est-ce que si j'arrive pas à l'heure, bon, bien sûr, sauf cas de force majeure, mais est-ce que je suis un menteur ? Et puis, comment je considère mon frère aussi à qui j'ai donné un rendez-vous ? La personne qui va faire des efforts, qui me considère comme son égal et qui considère ses intérêts plus que les miens, mes intérêts plus que les siens, il arrive à l'heure et du coup, moi, je lui dis, attends-moi, je vais arriver en retard et c'est pas grave. Vous voyez, c'est en retard, je dis pas un cas de force majeure, bien sûr, mais si vous dites, ah, c'est pas grave que je vais arriver en retard, implicitement, en fait, vous mettez au-dessus de l'autre, vous dites que mon temps est plus important que le tien. Alors tu vas attendre, et moi je vais arriver en retard, et après, on pourra faire ce qu'on voudra, mais j'ai le dessus, entre guillemets, je suis au-dessus de toi. Autre chose aussi, qui touche nos églises, et qui est tout bête, hein. Par exemple, je sais que quand on part de l'église, des fois on laisse le bordel, ok ? C'est l'heure où on m'en va de l'église, par exemple, là, je sais pas, là, on va sortir du coin des coins, quoi. On s'en va et on laisse les choses comme elles sont, enfin, telles qu'elles. C'est pas un péché, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas menti, j'ai pas volé. Mais encore une fois, le manque de considération. Ne pas penser à l'impact que peuvent avoir nos actes sur ceux qui nous entourent. C'est tout simple. Mais qu'est-ce qui va faire les choses ? Qu'est-ce qui va ranger ? Qu'est-ce qui va mettre toutes les choses en place ? Alors qu'entre guillemets, c'était à nous de prendre en considération ces choses-là, c'était à nous d'être responsables de ça. Et je dis, ok, moi, je suis au-dessus de tout ça, moi je ne change pas, moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'abaisse à ça. Toi, tu vas le faire parce que je suis derrière toi. Donc, moi, je vais partir. Et toi, tu vas régler tout ça. Moi, j'ai des choses, d'autres choses plus importantes à faire. Vous voyez, c'est utile. Hein, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais si on réfléchit vraiment à la source même des choses, c'est ça. Quand on fait ce genre de décision-là, c'est ça, en fait. Il y a toujours cette relation. Qui est-ce ? Où est-ce que je me place par rapport à l'autre ? Voilà, moi, je me suis mis dessus, non. Mais, ouais, c'est ça. Philippiens 2, 4, encore une fois, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux qui les autres. Et je pense que cet égoïsme-là, il est très, très subtil encore une fois. Et c'est important que les personnes, je pense que c'est les personnes qui sont le plus proches de vous qui vont pouvoir vous le révéler. La famille, le conjoint, la conjointe, les frères et sœurs, les frères avec qui on se confesse, à qui on dit des choses. Je pense que c'est important de faire appel, justement, comme on l'a vu le dernier point, aux frères et sœurs, pour qu'ils nous disent, en toute honnêteté, en toute franchise, pas du tout pour juger, mais plutôt pour encourager, pour aimer, et pour pousser à la sanctification. Frère, sœur, est-ce que je manque de considération vers toi, sincèrement? Est-ce que des fois, la manière dont je parle, la manière dont je réagis, la manière dont j'agis, est-ce que j'ai été offensé? Est-ce que je me suis peut-être senti au-dessus de toi? Et du coup, moi, je me rends pas compte parce que mon péché est tellement ancré en moi que je me rends pas compte. Mais toi, dis-le-moi sincèrement. Dis-moi ces moments-là où j'ai pu te faire te sentir en dessous de moi. Et aide-moi, prie avec moi, changeons ensemble. Donc voilà, l'égoïsme, comme vous le voyez, c'est des péchés bien, bien subtils. Et j'espère en tout cas que ça vous a posé des questions. Et il y a plein d'autres exemples. Hein. Mais réfléchissez vraiment à ça. À partir du moment où je me positionne dans une stature supérieure à l'autre, où je veux lui imposer des choses ou quoi, j'ai ce péché-là, j'ai cet égoïsme-là. Et je ne cherche pas l'intérêt des autres aussi bien que les miens, mais je cherche l'intérêt des autres moins que le mien. Je suis en contradiction avec Philippiens 2:4. Dernier point que je voudrais aborder. Donc c'est le manque de maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi, Donc le manque de maîtrise de soi, je pense que c'est un péché qui vous parle. Parce que je pense que ça, c'est vraiment un péché qui est récurrent et qui s'exprime vraiment de manière explicite. Moi, je sais que, par exemple, le manque de maîtrise de moi, il est ultra flagrant quand je suis chez moi. Quand je suis chez moi et quand je suis dans ma zone de confort, entre guillemets. Parce que je pense que c'est très facile, hein, par rapport à l'égoïsme, par rapport au péché, par rapport à l'orgueil, etc. Quand on sort en société, entre guillemets, avec les autres, c'est très facile de se montrer « Ah, t'as vu, moi je suis un bon chrétien, tu vois, moi je me comporte bien, ah, je vais t'aider, ah, je vais attendre, t'as besoin de ça, ah vas-y, je t'aide à faire de la guitare, ah, je t'aide à faire du carotte, tout ça. » C'est simple parce que... Et du coup, on se dit « Ah bah, on a peut-être une image à défendre, on a peut-être... on a notre fierté, notre orgueil à défendre aussi. » Mais quand on est avec notre famille... Du coup, là, c'est les masques. Et du coup, là, c'est les personnes les plus proches de notre vie. Et du coup, les plus petites choses vous révélez qui nous sommes vraiment. Moi, je sais que la personne, je suis honnête avec vous, la personne qui me fait sortir le plus rapidement de ma maîtrise de moi, c'est mon père. Mon père, je pense que la relation qu'on a avec lui est très, très spéciale. Dans le sens où ma mère, en fait, ma mère m'a appris l'amour avec un grand A, très sincèrement. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné ma mère, parce que son amour pour moi m'a vraiment fait comprendre c'était quoi l'amour. M'a vraiment fait caresser, entre guillemets, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour parfait, l'amour qui ne dépend pas de ce que je suis, l'amour qui ne dépend pas de ce que je fais, mais l'amour qui m'aime tel que je suis. Mon père m'aime aussi. Mon père m'aime d'une autre manière. Mon père... C'est le mec ultra carré dans sa tête. Mon père, c'est le mec systématique dans sa tête. Et je lui donne crédit parce que du coup, je sais que tout ce qu'on a et la situation qu'on a, etc., c'est grâce à lui. Parce qu'il est. C'est un mec comme ça. Et j'ai beaucoup à apprendre de lui. Le problème, c'est que quand il manifeste son amour, mon père, il dit fais ça. Fais ça. Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as fait ça? En fait, moi, au début, je le prenais vraiment comme une attaque. Je fais attends, tu me dis ça, tu me fais pas confiance, tu me dis ça, pourquoi tu crois que je suis qui, enfin voilà, tu crois que je suis encore un enfant, pourquoi tu me dis ça, je sais ce qu'il faut faire. Et du coup, moi, ça me met hors de moi, parce que je pense que ce qui m'insupporte le plus dans une relation, c'est que quelqu'un me fasse pas confiance, Parce qu'en gros, pour moi, quand quelqu'un me dit ça, c'est que tu me fais pas confiance. Tu me rappelles, tu me répètes des choses que je sais pertinemment. Donc tu fais pas confiance, tu fais pas confiance que je puisse faire la chose. Et du coup, moi, je suis. Et des fois ça pète. Et des fois je sors et je fais mais c'est bon. Enfin, je le fais pas comme ça, je le fais plus fort. C'est bon, j'ai compris. Arrête de m'embêter. En français, hein, je sais pas faire en chinois. Mais voilà, et c'est quelqu'un qui me met facilement hors de moi, enfin qui me mettait en tout cas facilement hors de moi. Et à partir du moment où j'ai compris que ce qu'il me disait, en fait, c'était pas tellement pour me pointer du doigt, mais c'était plus une marque d'amour, parce qu'en fait, c'est un vieux de la vieille, mon père, il ne sait pas exprimer son amour. Il ne sait pas le faire comme ma mère qui est là, et qui est là pour, entre guillemets, me donner des câlins et encore, mais qui est là plus. Elle exprime par le service. Mais mon père, lui, c'est vraiment par ses paroles de rappel. Et du coup, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à demander à Dieu, j'ai dit, ouais Seigneur, permets-moi vraiment d'aimer mon père. Même s'il me dit ces choses-là, permets-moi de. J'ai envie que ce soit toi qui vienne réunir en moi. J'ai envie que mes actions, mes pensées, au moins ils me disent ça. Donne-moi cette maîtrise de moi, donne-moi cet amour qui permet. D'aimer mon père tel qu'il est, et qui me permet de l'obéir, parce que c'est l'autorité de ma vie que tu as placée. Et du coup, je ne vous dis pas que c'est parfait, hein. Je ne vous dis pas que maintenant avec mon père, c'est la joie, mais je pense qu'il a compris, à partir du moment où je me suis soumis, à partir du moment où je l'ai aimé pour ce qu'il me disait, il a vraiment compris le changement que Dieu avait opéré en moi. Et du coup, maintenant, on a vraiment une relation beaucoup plus franche. Je ne vous dis pas qu'on s'embrasse et qu'on se fait des câlins, hein. Ça n'arrivera jamais avec mon père, mais je l'aime. Je l'aime vraiment, même s'il me dit ça, je l'aime et je sais me maîtriser par rapport à ce qu'il dit. Autre personne, en fait, qui par rapport à la maîtrise de soi, je vais vous parler de Salomon. Salomon, vous savez, c'est qui? C'était qui?
Monsieur Harem.
T'es trop rapide. Avant de Monsieur Harem, c'était qui?
Sagesse.
Sagesse, Monsieur Sagesse, ouais, c'est ça. C'était Salomon, c'était l'homme de la Bible, je pense, le plus sage, celui qui était respecté, celui qui était. Mis sur un piédestal pour sa sagesse. Proverbe 25-28, c'est même lui qui l'a écrit. Hein. Proverbe 25-28, une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe 25-28. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? À partir du moment où il n'y a pas de maîtrise de soi dans notre vie chrétienne, il y a une brèche. Il y a une brèche dans notre vie chrétienne. Il y a une brèche, pourquoi? Qu'est-ce qui va passer dans ton brèche? C'est le péché, c'est Satan qui va s'introduire. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est que le manque de maîtrise de soi, le pire, c'est pas que déjà c'est un péché, mais le pire du manque de maîtrise de soi, c'est ce que ça va engendrer. Qu'est-ce que ça va engendrer, ce manque de maîtrise de soi, quand je vais m'adonner totalement à mes désirs, à mes passions, à mes sentiments, à ma colère? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le pire. Salomon, comme je l'ai dit, c'était Monsieur Sagesse, mais c'était aussi Monsieur Harem, comme l'a dit Laurent. Salomon, c'est 700 femmes et 300 concubines. 700 femmes, 300 concubines. 1000, voilà. Je ne sais pas comment ils disaient, mais 1000. Un Romain. Un roi, chapitre 11, versets 4 et 5. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes détournèrent son cœur auprès d'autres dieux. Ce monsieur sagesse, il avait un manque de maîtrise de soi, et il a totalement cédé, il s'est totalement pas du tout maîtrisé face à un péché particulier, qui était l'adultère, qui était les femmes, les péchés sexuels, la luxure. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ces femmes détournèrent son cœur auprès d'autres dieux. Le pire dans le manque de maîtrise de soi, c'était pas tellement ce péché-là, mais c'est qu'est-ce qui va en engendrer. Je pense que nous, en tant que chrétiens, au jour d'aujourd'hui, on est assez... Franchement, je vous regarde... Et j'en connais beaucoup d'entre vous. Et je pense que franchement, vous êtes des bons chrétiens. Je pense que vous n'avez pas de gros péchés flagrants. Je pense qu'il n'y a pas, de meurtre ou de vol que vous avez fait, ou vous n'avez pas de casier judiciaire, etc. Et je pense que nous, entre guillemets, en tant que chrétiens, on sait comment se comporter comme des chrétiens. On sait ce qui est bien à faire. On sait tous ces ponts. Toutes ces bonnes habitudes, tous ces bons comportements à avoir pour être des chrétiens. Mais je pense que, à l'intérieur même de tout ça, on a des zones de liberté. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que quand tout est sous contrôle, en fait, quand toutes nos actions, quand toutes nos grosses choses sont sous contrôle, on a des zones de liberté, par exemple. Moi, typiquement, comment je vais réagir par rapport à mon père? C'est des zones de liberté que je me donne et que je vais utiliser totalement. Que je vais me dire, ouais, dans ces zones-là, je vais pouvoir être totalement, enfin, je vais pouvoir totalement me lâcher, entre guillemets. Et je sais que c'est pas un gros péché, je sais que c'est pas quelque chose de grave, mais ces zones-là, je vais pas les laisser sous le contrôle de Dieu. Je vais pas les laisser et les mettre à la lumière de la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, le manque de maîtrise de soi, le pire, c'est pas tellement que j'arrive pas à maîtriser, donc que j'arrive pas à contrôler mes sentiments, mes émotions, que j'arrive pas à faire de tout ça un esclave, en fait, de toutes ces ambitions, tous ces désirs des esclaves, mais en fait, ils vont devenir mes maîtres. Mais le pire, c'est ce que ça va donner. Par exemple, typiquement, moi, la colère, quand je suis en colère avec quelqu'un, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? Qu'est-ce qui va sortir de mon corps? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, les péchés vont être... Moi, je ne dis pas qu'il y a des péchés plus graves que d'autres, bien sûr. Dieu va avoir un péché ou mille péchés, c'est pareil. Mais les conséquences de mon péché par rapport aux relations avec les autres, les conséquences de mon péché par rapport à mon père ou à ma mère, dans mon cas, peuvent être dramatiques si je ne me maîtrise pas. On avait vu... est-ce que vous savez où est-ce qu'on parle de maîtrise de soi dans la Bible? Ouais, super. Ah, vous avez des bons chrétiens, vous avez vu? Vous avez des trucs et tout. Alors, c'est quoi, alors? Or, le fruit de l'esprit, c'est...
Ouais.
Voilà, exactement. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le neuvième, maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi, moi je sais que par exemple je fais un programme qui s'appelle Insanity, c'est un programme de sport, et je pense que la maîtrise de soi, je l'ai. Dans ce sens, ok, ce jour-là, pendant une heure, je dois... En fait, alors ouais, pour les non-initiés, les non convertis. Alors c'est un programme physique où chaque jour en fait on nous demande de faire des trucs tout bêtes, mais ça fatigue, des exercices tout bêtes. Et moi ce qui m'a plu en fait dans ce programme, c'est que bon, au-delà de me mettre en forme, au-delà de plus endurant, etc. C'était une phrase qui était dit, qui était ouais, en fait c'est pas fait pour n'importe qui. Et il faut être entre guillemets déter, il faut en vouloir, il ne faut rien lâcher pour pouvoir réaliser ce genre de truc. Donc du coup, moi, je me suis dit, ok, vas-y, je vais le faire, je vais me prouver à moi-même déjà orgueil. Hein. Ouais, je m'en rends compte maintenant. Orgueil par rapport à ça, ok, du coup, je vais me prouver, montrer, je vais pouvoir le faire. Et pour le réaliser, en fait, il faut avoir vraiment une maîtrise de soi par rapport à ce qu'on mange, par rapport à l'heure à laquelle je me réveille, par rapport à ce que je fais. Et vraiment cette maîtrise de soi en moi. Mais la maîtrise de soi de la Bible, c'est au-delà de tout ça, c'est au-delà de cette maîtrise de soi que, tiens, par exemple, un athlète, quand il va faire les Jeux Olympiques ou quoi, il va avoir une maîtrise de soi parfaite par rapport à son régime alimentaire, par rapport à ses exercices, par rapport à son cycle de sommeil, enfin, tout est réglé. Par contre, son caractère, il peut péter les plombs, enfin, il peut devenir ouf, il peut être totalement exécrable avec sa compagne, avec ses enfants, etc. La maîtrise de soi que nous avons dans la Bible, c'est pas juste une maîtrise de soi. Par rapport à la colère, pas juste une maîtrise de soi par rapport à comment je parle, comment je pense, mais la maîtrise de soi de la Bible, c'est dans tous les domaines de ma vie, que ce soit des domaines physiques, que ce soit des domaines des pensées, que ce soit des domaines mentaux, psychologiques, tous les domaines doivent être sous le contrôle de l'esprit et à la lumière de la parole de Dieu. Quand on avait parlé du Saint-Esprit, on avait dit l'action du Saint-Esprit en nous, il y avait cette dualité en fait, cette responsabilité dépendante. Responsabilité dépendante. Et quand on se compte aussi de soumettre au Saint-Esprit, c'est cette responsabilité dépendante qu'on appelle. Galates chapitre 5, verset 16, il est écrit: voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marcher par l'Esprit, comme on l'a dit, c'est responsabilité dépendante, c'est de dire: Seigneur, tu me demandes de me maîtriser. Seigneur, tu me demandes de maîtriser mes pensées, de maîtriser ma colère, de maîtriser mes gestes, donc tout ce que je fais, tout ce que je dis. Mais Seigneur, je sais que je dois le faire, mais je sais que je ne peux pas le faire seul, parce que si je le fais seul, je vais encore une fois péter les plombs. Si je le fais encore seul, je sais que je vais encore une fois m'énerver. Mais Seigneur, j'en appelle à toi. Je m'appelle à ton Saint-Esprit pour qu'il produise en moi ce changement, pour qu'il me mène à avoir les yeux fixés sur toi et qu'il mène à me maîtriser. Je veux changer, mais c'est toi qui vas faire le changement, Seigneur. Responsabilité dépendante, qui est la clé de la maîtrise de soi. Ensuite, donc ça c'est plus par rapport au tempérament. Proverbe 14:17 nous dit « Le colérique fait des bêtises ». Et ça, je pense qu'on s'en rend tous compte. Quand on est en colère et quand on se laisse livrer, quand on manque de maîtrise par rapport à notre colère, les choses ne vont jamais dans le bon sens. Jacques 1:19, la lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Je ne sais pas si vous voyez ce que nous dit l'apôtre Jacques ici. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Jacques 1:19 et le collègue fait des petits proverbes 14:17. Donc pour combattre ce manque de maîtrise en soi, marchez selon l'esprit et vous combattrez. Donc Galates 5, chapitre 5, verset 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Responsabilité dépendante. Je reconnais que je dois me maîtriser. Je reconnais que Seigneur, tu me demandes de maîtriser tous mes faits, tous mes gestes, mes pensées. Et c'est toi qui vas faire la chose. Je veux dépendre de toi pour le faire. Donc voilà. On a vu les trois principaux péchés, donc l'orgueil, donc on a vu l'impiété qui découle sur l'orgueil, parce que l'orgueil, je me dis que je connais quelles sont les propres valeurs, c'est ce qui me va le plus. Ensuite, cet orgueil implique l'égoïsme en moi, toutes les choses que je vois, tout mon environnement, tout centré sur moi, parce que je connais les valeurs qui sont bonnes pour moi. Et puis troisièmement, parolier, mais aussi important, le manque de maîtrise de soi. Comment est-ce que je peux combattre comment est-ce que je peux combler entre guillemets cette brèche qui est ouverte dans mon cœur quand je manque de maîtrise de moi. Donc voilà les trois principaux points que je voulais vous dire. Maintenant on va passer au. Il est 9h10, ok. Je vais prier pour terminer et puis après on va se splitter un petit groupe. Seigneur, je te remercie pour cette soirée, Seigneur, je te remercie pour ta parole également, Seigneur, qui encore une fois nous éclaire et nous montre des endroits sombres de notre cœur, de notre pensée, qu'on ne soupçonnait même pas, Seigneur. Et merci parce que ta parole est tranchante, Seigneur, et qu'elle ne revient pas sans effet, Seigneur, qu'elle nous montre, elle nous pointe des choses que tu veux qu'on change, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce qu'en pointant ça, ta parole nous donne également les armes, et ton Saint-Esprit nous aide pour pouvoir changer, Seigneur, pour pouvoir nous détourner, Seigneur, pour pouvoir nous... totalement être libéré, Seigneur, du péché. Seigneur, je te demande vraiment de bénir les discussions qui vont avoir lieu, Seigneur, sur ces trois péchés principaux, l'orgueil, l'égoïsme et le manque de maîtrise de soi, Seigneur, que ce soit vraiment un moment de communion fraternelle, surtout un moment où on va pouvoir s'édifier les uns les autres, partager, Seigneur, et pouvoir s'encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, Seigneur, comme tu nous demandes pour combattre ces péchés, Seigneur. Je te remets le reste de cette soirée entre tes mains, Seigneur. Quoi que nous fassions, que nous mangeons, que nous buvions, que nous prions, que nous chantions, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Christ Jésus-Christ, je te prie. Amen. Ok, donc les chefs des différents groupes, appelez vos teams. Je pense qu'on va prendre que. Il est déjà 9h10, on se donne rendez-vous à quelle heure ? Ici. Parce qu'après, il y a la soirée louange. Donc désolé, en fait, j'ai encore une fois débordé sur.
45.
Ok, 45, on revient. Et la soirée longue durera à peu près une heure. Donc voilà. Les leaders, levez-vous, appelez vos teams. Et puis 45, on revient tous ici.
Ok. Sachant que après c'est des bonnes discussions juste après la soirée longue.
Ouais.
La soirée longue.
Exactement.
Et ça sert libre de rester du bon temps et voilà. Non, c'est pas.
Ouais. Juste c'est le but.
Ouais. Alors, Oscar, tu es dans le groupe de Mike. Et Lydia, tu es dans le groupe de Flo. Voilà, pas de marge entre le temps et de la situation. Et le mangement, je pense que c'est ça. C'est pas la mission de l'autre.
C'est toujours les bonnes salles.
Hein ?
C'est toujours les bonnes salles.
Bah non, justement, je voulais aller au canapé, mais on va aller au canapé. Vas-y.
Tu veux pas le canapé ? Pas le canapé ?
Non, non, vas-y. Attends, on va aller quand même.